Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité.
Et la plupart d'entre vous le sentent.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements en clandestin.
Nous marchons aujourd'hui, c'est pour affirmer haut et fort que nous existons, que nous sommes fiers, que nous sommes magnifiques et que nous continuerons toujours à nous battre.
Bonjour à toutes, à tous et aux autres, vous écoutez le Gang des Hystéries, diffusé sur Micro Rebelle et sur PFM 99.9 au troisième samedi du mois à 11h30, et ensuite on est rediffusé le mardi suivant à 16h, le mercredi à 21h30, et dans la nuit du vendredi au samedi à minuit. Aujourd'hui, on va parler, en fait déjà on est que deux, aujourd'hui on est en sous-effectif, donc on est avec Florian, salut Florian.
Bonjour.
Et puis moi, donc Silver. Et on va discuter du VIH, parce qu'en fait on approche du 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA. Et Lily, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui sera là dans nos cœurs, nous a fait un petit reportage, on vous le met tout à l'heure. Mais avant tout ça, on va commencer par l'agenda habituel du aujourd'hui, parce qu'on est le samedi 14 novembre à partir d'aujourd'hui, donc
17.
Oui, 17, pardon, parce que là, c'est, je suis très mauvais en date. Donc ouais, pour l'agenda à partir du 17 novembre, Florian, je crois que tu as quelques infos.
Alors, tout plein d'infos, on a eu plein de retours de nos collègues absents aujourd'hui en disant « Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Donc la liste est un peu longue, accrochez-vous, on démarre. Donc déjà, ça a déjà commencé, c'est depuis le 8 novembre et jusqu'au 1er décembre, à la Cité Philo de Lille, on a un cycle de conférences sous le signe féminin, singulier, universel, donc du contenu féministe en prévision. Donc je rappelle que c'est jusqu'au 1er décembre. Après, nous avons le 20 novembre, de mémoire, c'est mardi,
Ouais, je
20
crois.
Novembre, qui est la journée internationale du souvenir trans.
Ouais.
Et il y a un rassemblement qui s'effectue à Lille, place de la République, à partir de 19h. Est-ce que tu veux nous dire deux mots sur cette journée?
La journée mondiale du souvenir trans, c'est un moyen en fait de penser à toutes les personnes trans qui sont mortes, qui ont disparu à cause de la transphobie. Et c'est du coup une journée de lutte, de revendication. C'est pour parler du manque de droits des personnes trans en France comme ailleurs. Parce qu'on le rappelle, mais encore en France, c'est très très compliqué de changer son genre à l'état civil. Et dans d'autres pays, on peut être c'est criminalisé. Il y a encore énormément de luttes et de revendications à faire là-dessus. Et donc le 20 novembre est un moyen de se rappeler de tout ça.
Alors ensuite, on continue. Le 23 novembre, cette fois-ci, c'est à Lens, place Jean Jaurès, à partir de 18h. Il y a la mobilisation contre la haine anti-LGBT, donc organisée par l'association Artaud-Gallion, et qui fait écho à la journée internationale de la tolérance qui a eu lieu le 16 novembre. Ensuite, événement très important, le 24 novembre, il y a plusieurs événements partout en France. Donc nous, ici, dans le Pas-de-Calais, il y a plusieurs bus qui vont partir dans la matinée samedi matin en direction de Paris pour la marche qui s'effectue grâce à l'association, l'organisation hashtag Nous Toutes.
Ouais, le collectif Nous Toutes, ouais.
Et c'est pour marcher contre les violences qui sont faites aux femmes.
Ouais, contre les violences sexistes et sexuelles, parce que le 27 novembre, du coup, c'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et du coup, voilà, le collectif Nous Tous organise cet événement le 24 novembre.
Donc il y aura ça. Et pour celles et ceux qui ne pourraient pas prendre le bus et venir à Paris avec nous pour défiler, il y a normalement une manifestation qui se fera aussi à Béthune sous aussi le drapeau violet donc de Nous Toutes C'est encore en projet, on ne sait pas trop si ça va être une marche ou juste un lieu de rassemblement, mais n'hésitez pas à venir nombreuses et nombreuses.
Oui, et si vous êtes intéressé pour venir avec nous en bus, on rappelle, c'est complètement gratuit, on prend tout en charge, on vous ramène aussi, on ne vous laisse pas à Paris, promis, c'est l'aller-retour. Et en fait, il suffit juste de nous écrire, si vous voulez plus d'informations et qu'on vous inscrive sur la liste, il faut nous écrire à lance@noustoutes.org. Donc c'est lance comme la ville, @ et noustoutes, tout collé, .org pour s'inscrire. N'hésitez surtout pas.
On poursuit l'agenda avec le 27 novembre cette fois-ci. Donc c'est l'Échappée qui fait une soirée de projection et de performance à l'Univers à Lille. Le 29 novembre, une journée organisée par le collectif, donc 25 novembre, sur toujours donc les violences faites aux femmes. Donc en journée, il y a plutôt des animations tout public et surtout scolaires, avec différents stands de différentes associations qui ont mis en place donc cette journée. Et le soir, il y a une soirée avec l'année dernière, c'était quoi? Il y avait un petit défilé de l'émancipation.
Oui, il y a un défilé de l'émancipation. Ce sera un très très beau défilé de mode féministe avec des pancartes et plein de revendications et plein de choses super cool. Ouais, c'est vraiment quelque chose à ne surtout pas rater.
Et puis pour la suite de l'agenda, nous avons donc le 30 novembre suite. De la soirée Monte ton kit de stand que Aline nous avait proposé. Donc c'était un lundi du planning qui était organisé là-dessus pour dire ben voilà, qu'est-ce qu'il faut pour monter son kit de stand, qu'est-ce qu'on doit préparer pour tel ou tel événement. Et suite à cette soirée qui s'était déroulée, on propose en fait de ranger un peu le local parce qu'il y a des prospectus un peu de partout, il y a des affiches un peu de partout, on court toujours après les préservatifs parce que les boîtes sont à droite à gauche. Bref, là ce qu'on veut faire c'est vraiment ranger tout ça, vraiment tout bien conditionner pour que si les bénévoles veulent monter leur stand, ils puissent faire ça rapidement.
Voilà, comme ça on peut s'approprier un peu notre espace et du coup, si vous connaissez pas vraiment le planning, n'hésitez vraiment pas à venir, ça peut être super cool. Vous inquiétez pas, si vous connaissez pas, on va pas vous dire bah, tiens, occupe-toi de cette armoire. Au contraire, on vous mettra un verre de jus de fruits dans les mains, vous vous poserez, ça sera l'occasion de discuter de découvrir un peu le planning pendant qu'on le déconstruit, qu'on le reconstruit au même moment. Donc n'hésitez pas, ça va être une soirée hyper intéressante en vrai. On essaye un peu de revendre ça en disant venez nous déranger s'il vous plaît.
1er décembre maintenant, on y arrive, donc la journée internationale de lutte contre le VIH et contre le sida. Pour le coup, nous soutenons nos collègues du Nord, parce qu'ils mettent en place avec plusieurs associations donc la soirée de la Saint-Sida, avec au programme un spectacle, donc si de mémoire c'est Éperlec.
Ouais, de Lucia Franin.
Voilà, avec bien sûr une messe de nos chères sœurs de la Perpétuelle Indulgence.
Les fameuses.
Et par la suite, il y aura un petit buffet pour qu'on puisse tous et toutes discuter voilà. Dans la joie et la bonne humeur.
Voilà, donc c'est un événement qui est très prisé par contre. Donc si, alors vous nous écoutez, ça se trouve, il n'y a déjà plus de place, mais essayez de contacter le Prato, essayez de contacter les assos qui y vont. Il y aura peut-être des places qui traînent encore. Parfois, il y a des gens qui se décommandent à la dernière minute. Donc n'hésitez pas à entrer en contact avec le Prato. Si vous n'êtes jamais venu à la Saint-Sida et surtout si vous n'avez jamais vu de Messe des Sœurs ou Éperlec de Lucien Franin, c'est vraiment une soirée à ne pas manquer. On vous recommande ça chaudement.
Ça me fait penser que j'ai pas pris les places, il faut que je me dépêche.
Ah oui.
Et puis vous aurez peut-être la chance de rencontrer Zoé et Bibiana. Oh. Mais bon, ça c'est autre chose.
Oh, du teasing.
Et puis, dernier point, c'est bien sûr notre fameux bar LGBT, tous les premiers vendredis du mois. Et donc pour le mois prochain, ça sera le vendredi 7 décembre.
Oui, comme d'habitude, c'est l'occasion de se retrouver et d'échanger un verre, de grignoter. Et là, en plus, on va acheter des jeux de société, donc on va avoir des soirées ultra animées, on est super fiers. Et ouais, c'est l'occasion de se retrouver, de discuter un peu de nos vies, de nos revendications, de plein de choses. Et c'est donc au 45 rue François Gauthier à Lens, toujours dans nos locaux. Et je comprends pas ce que tu m'as montré en fait, Florian. Désolé. Oui.
C'est par rapport parce que nous avons reçu un mail tout à l'heure par rapport à l'affichage, mais il y a les permanences trans qui vont commencer. Ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Alors, je reprends le flyer, comme ça, ouais, au moins, vous aurez toutes les informations.
Carrément.
Mais donc, en lien avec des associations qui s'occupent de personnes trans, nous avons mis en place, donc au sein du planning familial, des permanences trans, donc pour les personnes ou pour l'entourage de personnes trans, pour les aider dans certaines démarches, pour les accompagner et tout ça. Et ça ne veut pas s'ouvrir, c'est génial. Mais je crois que...
C'est avec c'était... l'association C'est pas mon genre, une association lilloise de trans.
Exactement. Et il y a aussi une autre association qui nous aide pour la faire, c'est aussi En Trans.
Ouais.
Et donc, ça sera le premier mercredi du mois, de 16h à 18h au planning familial, au local, donc grâce à l'association qui va pouvoir venir faire les permanences.
Voilà. Donc plein de bonnes raisons de venir au planning, que ce soit pour ranger, pour discuter de questions trans ou pour échanger des verres en jouant des jeux société. Donc venez.
C'est tout pour l'agenda.
Je crois que c'est tout pour l'agenda, ouais.
Bien costaud, je crois que c'est le premier qu'on fait autant.
Mais oui, grave, il fait toute une page à 4, quoi. Et ok, donc là, on va faire une petite pause pour s'en remettre. On va vous laisser avec un petit peu de musique et ensuite on va revenir pour le grand reportage de Lily. On vous laisse donc avec Mayhem et Sula, le morceau s'appelle Décor. À tout de suite.
Les yeux à peine ouverts, il va falloir que je parvienne à décoller mes paupières après 13 heures de sommeil. De sale humeur, vu l'heure à laquelle je mets le pied au sol. Près deux ou trois réveils qui sonnent jusqu'à une petite douzaine. Avancer même, penser en sous-régime, gaver, prévoir d'être efficace, rentabiliser mon temps. Toujours bien rester à ma place, jamais laisser de moment de latence. Trottoir bondé, je place, tant bien que mal, un pied devant l'autre. Le crâne, les idées en vrac, j'accélère au radar, histoire de me donner l'impression de compenser mon heure de retard. Dérive, non calculée, esquive, mal maîtrisée, poteau. D'acier massif dans le coude, je vais vite propager, loin d'arranger. Mon humeur déjà sévèrement ravagée, je suis à deux doigts du forfait, mais j'oublie pas de m'excuser. Avancer, même quand c'est en sous-régime tracé, éviter de s'embourber, jamais trop se laisser le temps de penser. Généreuse en couleur, nos Miss France, des Dom Tom et nos Naomi Campbell. Défilent dans les crânes des images de belles femmes méditerranéennes, mais espagnoles, italiennes, ça passe mieux quoi quand belle orientale, déhanchée enivrant, reine esclave des harems, ça peut pimenter les fantasmes, celles qu'on appelle filles des îles. Imaginez, validée, à qui chante, sexualité supposée débordante, et il tripe sur la métisse, Mélissa Dibissom, point qu'il en fait un titre, et allez-y, Matéla, la liste est longue, 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 la liste est longue.
Nous sommes de retour sur le Gang des Hystéries, diffusé, je rappelle, sur PFM 99.9 et aussi sur Micro Rebelle. Donc maintenant, nous allons vous passer un petit reportage fait par notre collègue Lily.
Oui.
Et de quoi ça va parler donc ?
Eh ben, alors, en fait, c'est un petit reportage sur l'égalité femmes-hommes. En fait, le mardi 6 novembre, il y a eu lieu à l'Institut Régional du Travail Social, l'IRTS, d'Arras, une journée thématique sur l'égalité femmes-hommes dans les assos et les entreprises et structures d'égalité sociale et solidaire. On appelle ça l'ESS. Et parce que ça fait partie de ces valeurs-là, cette égalité. Mais là, il était question de voir dans les faits, qu'est-ce qui se passe en fait ? Est-ce que du coup, il y a vraiment cette égalité-là ? Comment ça se passe dans ces structures ? Et donc là, on va vous laisser avec Lily, et on se retrouve dans une petite vingtaine de minutes pour en discuter. Allez, à tout de suite.
Ok, alors ici on a leur premier groupe, basket, d'accord ?
On a un groupe basket. En regardant leurs chaussures, ils ont trouvé qu'ils étaient basket.
Ouais, est-ce qu'il y a des gens qui avaient des dissensions, des désaccords là-dessus ? Non mais alors tu as le droit de pas être convaincu, Zéna, ne t'inquiète pas. Ok, donc là ça a été rapide, rapidement. Car...
Moi, je pense qu'il y a une parité et une égalité dans... Ouais, je...
Quel est le président ou la présidente ?
C'est un président. C'est un président. Un président aussi. C'est vrai. Ouais, mais bon.
Et est-ce qu'il y a un vice-président ou un non-président ? Je sais pas.
C'est un homme aussi, mais il y a des femmes aussi dans... Il y a des femmes.
Des femmes dans le bureau ?
Ah oui, oui, oui.
Ou alors dans le CA ?
Dans le bureau et dans le CA. Ouais, ouais.
Pour l'instant, pas de présidence. Et ton supérieur hiérarchique, c'est un homme ou une femme
aussi ? Mon chef de service et mon directeur, ce sont des hommes. Mais moi, quand je suis arrivée, c'était une femme. C'est parce qu'elle est partie à la retraite. C'est un homme qui a pris le relais.
Tu te sens bien dans ton asso ?
Ah oui, complètement. Ouais.
Le monde associatif, finalement, n'est absolument pas vertueux. Parce que ma maison, elle est mal, le mouvement associatif, qui co-organise avec la CRES l'événement. Sur l'ensemble, puisqu'on regroupe des têtes de réseau, sur notre boîte mail d'envoi qu'on a en gros, on est au chiffre effrayant de 18 femmes et 45 hommes. Donc on a une marge de progression.
C'est parce qu'en fait, j'ai capté la fin de votre conversation et j'ai entendu comment ça se passe dans votre association. Et c'était oui, il y a la parité, mais de fait, les femmes sont suppléantes. Est-ce que l'une d'entre vous peut expliquer le « de fait » ?
Le de fait était carrément ironique et on disait que c'était comme dans la politique où il y avait une parité obligatoire mais qui pouvait être contournée parfois. Et donc on était en train de réfléchir, effectivement dans mes statuts il est noté qu'il y a une obligation de parité, un homme ou une femme, un suppléant, un titulaire, et souvent le titulaire est un homme et la suppléante est une femme.
En tant que présidente de la CRES, je pense que c'est l'exemple que je dois montrer à l'intérieur de mon propre appareil, et du coup voir comment les questions de tiens, comment vous associez cette envie d'égalité femmes-hommes dans votre projet politique, comment vous l'effleurez, comment vous le déclinez, ça c'est peut-être un travail et un levier à opérer. Parce qu'en effet, aujourd'hui la situation n'est pas au top. On est d'accord. Mais c'est le comment. Comment on appréhende les appareils politiques là-dessus. Je pense aussi que c'est pas parce qu'on nomme quelqu'un à la tête d'un appareil qu'on a fait le job. Et c'est ce qu'on a eu. On a été victime à un moment donné en politique de certaines missions confiées à des femmes en disant « Vous avez vu, j'ai nommé une femme. » Attendez, faut qu'on arrête. Les femmes en politique n'ont pas été préparées. Certains partis, d'ailleurs tous, ont cru qu'ils pouvaient mettre des plantes vertes pour quelques rôles. Aujourd'hui, ça a créé la désorganisation.
Alors, je me glisse comme une petite souris d'atelier en atelier et je viens d'entendre quelque chose qui, en fait, s'est déjà entendu dans la plénière sur le fait qu'il y avait une forte présence d'hommes blancs de plus de 50 ou de plus de 65. Tout le monde n'est pas toujours d'accord. Donc, dans les gouvernances des associations, et apparemment, on appelait ça, j'entendais le terme de mandarina. Et j'ai donc interrogé la directrice de la CRES pour qu'elle m'explique ce terme et qu'effectivement, le mandarina serait le fait qu'une gouvernance soit installée et non partagée, donc installée on va dire dominée par des hommes blancs âgés et qui ne partagent le pouvoir ni en changeant de genre, ni en changeant d'âge et probablement pas de classe. Mon point d'interrogation, c'était comment se fait-ce que pour parler d'un souci de domination blanche, on emprunte un terme qui me semble venir de la Chine. Je suis très perplexe. Tu es d'accord avec moi ? On vient de comprendre de l'intervention sur l'égalité femmes-hommes dans les clubs sportifs qu'il faut, un, attendre que les vieux soient morts,
oui.
Deux,
agrandir les cimetières,
trois, habiter en ville. Ouais. Pour avoir des modes de garde.
Dans les grandes villes, surtout.
Dans les grandes villes, surtout.
Ouais, grandes villes.
Ok, merci. Bon, ben, on se remettra au sport, je sais pas, quand on aura 65 ans.
C'est ça.
D'accord, à la retraite. Cool.
Vous avez vu, on a beaucoup parlé par exemple des hommes blancs de plus de 50 ans ou plus de 65 ans.
Oui.
Je vois de manière, peut-être que je fais un raccourci, mais vous êtes un homme.
Oui.
Et je me dis que vous avez peut-être plus de 50 ans.
Oui, il y a plus.
Et je voulais avoir votre sentiment sur cette figure qui est dessinée dans tous les échanges, de cet homme blanc de plus de 50 ans qui est à certaines places de gouvernance. Et est-ce que, parce qu'il y a eu des échanges un petit peu sur la fin un peu crispés, est-ce que vous vous sentez aussi... quel est votre ressenti? Est-ce que vous vous sentez agressé ou pas? Ou est-ce que vous comprenez et ça fait et vous avez des choses à nous dire à ce sujet?
Non, moi je ne me sens pas agressé sur le fait que les dirigeants sont des hommes blancs. J'en étais un dirigeant toute ma vie, donc j'étais blanc. Mais c'est normal aussi que j'ai compris que le pouvoir doit se partager. Souvent les politiques disent le pouvoir ça se prend. Je pense que si on veut vivre en harmonie, il faut savoir partager le pouvoir, y compris en famille, y compris dans la vie associative. Mais je crois qu'il faut commencer dans la famille et partager les tâches. Faut tout partager, en fait. Il faut vivre ensemble.
C'est le CRAJEP pour, dans sa volonté de représentativité, de représentation, envoie, entre guillemets, mandate des représentants qui ont... toutes et tous moins de 30 ans. On parlait de combat pour l'égalité. L'âge, on peut aussi en parler à ce niveau-là. Donc, merci au CRAJEP.
D'ailleurs, tu esquisses peut-être une idée d'être à l'intersection de quelque chose entre le genre, l'âge.
Alors, je vais peut-être dire un petit peu trop rapidement dans le propos introductif, mais la question de l'égalité femmes-hommes, en fait, elle pose pour moi vraiment le principe de l'égalité. Le principe de l'égalité, c'est pas simplement une question de genre, mais ce combat pour l'égalité, sur la prise de conscience et de la déconstruction systématique de tout rapport de domination. Et ça n'a pas à voir que la question femme-homme.
L'assemblée que j'observe est composée de 12 personnes, dont 5 hommes et 2 femmes dites racisées, dont une femme noire. L'ensemble des personnes, à part peut-être... 3 personnes qui auraient moins de 40 ans, le reste est plutôt au-dessus de 45, peut-être au-dessus de 50. Et on a donc 10 personnes, dont 5 hommes, dont un homme noir. Donc nous sommes en présence d'un groupe de 14 personnes. 14 personnes dont, de mon interprétation, j'y vois...
Alors, maintenant l'idée c'est de savoir. Alors, Maria Pat, c'était rond ou carré ?
5, 6 hommes. Et 2 personnes, 2 femmes noires. J'ai quitté donc l'atelier sur l'égalité professionnelle où il y a eu un échange très intéressant sur le point de vue de membres associatifs qui vont œuvrer en Afrique sur l'égalité ou les inégalités entre les femmes et les hommes en Afrique et où il faudrait apporter un peu plus d'égalité car ils en ont besoin. La question étant, quelle représentation avons-nous des milieux populaires locaux, français, blanc, pour enlever le prisme exotique de la couleur et du déplacement pour aller chercher l'eau au puits. On on a parlé de temps en temps un peu d'intersection, c'est-à-dire se dire qu'il y avait aussi cette question femme-homme et cette question ancien-ancienne et jeune. Il y a aussi la question de la représentativité des personnes qui seraient non-blanches, puisqu'on a parlé de l'homme blanc, parlons des personnes qui sont non-blanches. Est-ce que tu as des observations, quelque chose à nous dire là-dessus ?
Il ne faut pas distinguer les différentes formes de discrimination. Je pense qu'il y a... Enfin, il y en a qui le diraient beaucoup mieux que moi, parce que je précise aussi que moi, je suis en animation du réseau et pas forcément spécialiste de la question. Donc.
Mais on est un mouvement d'éducation populaire, les experts, on n'interroge pas trop.
Je pense que oui, les discriminations, les inégalités, elles sont souvent croisées. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à déconstruire aussi, finalement. Mais même dans l'autre sens, pourquoi dans certaines structures, c'est que des femmes qui sont présidentes, et comment on fait pour que des hommes y accèdent aussi, dans la petite enfance, dans le médico-social, dans pas mal de structures très étiquetées féminins. Et derrière ça, il y a plein de formes d'inégalités. Et peut-être que parfois, alors peut-être pas tout le temps, mais parfois, les questions de l'égalité entre les femmes et les hommes masquent d'autres inégalités, en fait, et on va tendance à focaliser là-dessus. Et si on trouve pas la solution, c'est peut-être que c'est pas forcément le cœur du problème, que ça va être les catégories socio-professionnelles, que ça va être effectivement la question des origines géographiques des ancêtres, que ça va... Enfin, voilà, qu'il y a différentes formes de discrimination, de facteurs qui jouent et qui favorisent ou renforcent les inégalités, quoi.
Par exemple, moi je suis directrice et je sais que parfois quand j'entends des collègues parler de certaines collaboratrices enceintes, c'est « oh punaise, elle va me claquer un 80%, elle va me claquer un vendredi, elle va pas vouloir rester le soir » et bizarrement on s'imagine que c'est la mère qui va supporter tout ça et qu'en plus ça va l'éloigner du travail puisque les gens ne sont pas que des agents économiques. C'est aussi des mères, des pères. Ils sont à la tête d'une famille et de futurs petits Français et des jeunes têtes à remplir. Et donc voilà pourquoi ça peut être un frein pour le gestionnaire en fait de la boîte qui pour lui voit ça comme une contrainte. Et encore dans cette logique de tradition où c'est la mère qui s'occupe des gosses et le père ramène l'argent à la maison. Sauf qu'en fait dans les faits, les familles sont de plus en plus monoparentales. En tant que famille monoparentale, le père se trouve aussi seul face à l'enfant. Et il commence à prendre conscience.
Je trouve que c'est très instructif, on apprend beaucoup de choses. Globalement, je suis très contente d'avoir participé à ça.
Qu'est-ce que vous pensez de la place des femmes, peut-être dans votre association ?
Bon, c'est la place des femmes, effectivement, nous accompagnons beaucoup de femmes immigrées. Donc, c'est intéressant, mais il y a beaucoup de choses à faire.
Et vous êtes des femmes qui accompagnez des femmes. Alors peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans votre association alors.
C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais c'est femmes, nous accompagnons femmes et familles. Donc il y a des hommes qui viennent, mais effectivement il y a beaucoup plus de femmes. C'est pour cela que nous essayons d'inculquer à ces femmes-là pour leur expliquer comment ça se passe. Parce qu'ils viennent dans des sociétés où c'est les hommes qui dirigent, la femme n'est rien.
Que vous pensez que c'est très différent du coup ici là par exemple dans le Pas-de-Calais ?
Dans le Pas-de-Calais, oui.
Dans le Nord. Hein.
Dans le Nord, oui, oui. Nous nous rendons compte que la femme elle est vraiment en bas de l'échelle, même si elle se bat beaucoup, mais c'est vraiment.
Il y a peut-être une idée qu'on a une condition de femme qui pourrait être commune si on prenait du temps pour se parler. On pourrait se dire qu'on vit des fois les mêmes choses, les mêmes difficultés, les mêmes oppressions.
Oui, tout à fait. C'est les mêmes. On se rend compte, c'est les mêmes. C'est à des degrés différents, mais c'est vraiment les mêmes.
C'est une histoire de degrés.
Une histoire de degrés, voilà.
Et la région des Hauts-de-France, aujourd'hui, pour les inégalités salariales, c'est une région qui se situe sur la courbe haute de ces inégalités. Puisque nous avons une différence de salaire de l'ordre de 18%, là où en France, on est plutôt entre 9 et 25%, mais sur les chiffres sur la région des Hauts-de-France, on est sur 18%. 18%, juste aussi pour l'anecdote, ça correspond à peu près à 4 800 € de différence par an entre les hommes et les femmes. Différence de salaire moyen entre les hommes et les femmes. 4 800 € par an, ça veut dire 400 € par mois. On commence à réfléchir un peu plus. Quand on le met sur une vie professionnelle, et c'est ce qu'a fait le CORIF dans un document qui est sorti l'année dernière, on arrive à plus de 300 000 € sur une vie professionnelle de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Donc on peut continuer à se dire que ça n'est pas grave, que ça n'est pas très intéressant et que ça n'est pas un véritable sujet. Quand on arrive au bout d'une vie professionnelle avec 300 000 euros de manque à gagner quand on est une femme, quand on arrive au bout d'une vie professionnelle avec des retraites qui sont de 40% de moins que celles des hommes, on se dit que peut-être c'est un véritable sujet et qu'il faut s'en emparer et qu'il faut en parler au moins à tous les niveaux.
Baya, tu es toujours militante et salariée de la RIFEN, la Rencontre Internationale des Femmes Noires.
Oui.
Oui. Tu es une femme noire. Est-ce que les échanges et les commentaires qui ont été faits toute l'après-midi, est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce que tu t'es sentie concernée et incluse?
Bien sûr. Je suis là en tant que femme avant tout, ou en tant qu'actrice sur le terrain avant tout.
Est-ce que tu penses que du coup, les femmes que tu accompagnes ont été comprises et incluses dans les échanges qu'on a pu avoir?
Oui, je pense qu'on... c'est une généralité. Égalité homme-femme, ça doit se poser dans tous les milieux. Donc, je ne me sens pas exclue ou mon public n'est pas exclu. Je pense qu'on peut tirer des choses et les mettre en pratique dans nos différentes associations.
D'accord. Et est-ce que tu as une phrase au sujet de l'après-midi en général? Est-ce que ça t'a apporté ou...
Complémentarité. Toutes les associations ont des spécificités, mais c'est la complémentarité qui va faire avancer les choses.
Ces propos ont été recueillis lors de l'après-midi Égalité Hommes-Femmes, on en parle, organisé à l'IRTS d'Arras par le mouvement associatif et la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Propos pris sur le vif par notre petite souris, Lily Boilet, qui s'est promenée sur place entre les différents ateliers, ayant pour but soit de promouvoir, soit de favoriser la mise en place de bonnes pratiques en matière d'égalité dans les associations et les entreprises labellisées ESS. Derrière la souris d'ordinateur, cette fois à la réalisation donc, Luc Chaden. Retrouvez tous nos reportages et autres documents sur microrebelle.fr.
Comment ça s'est passé?
Super intéressant, super enrichissant, très bonne animatrice, j'ai adoré. Non mais c'est vrai.
Bon, maintenant qu'elle est partie. Que... Non, je plaisante.
Non mais c'est vrai. Attends, je suis pas très à l'aise. Mais là, franchement, elle m'est à l'aise et j'ai appris plein de choses. Et c'est vrai que je vais faire attention maintenant de plus avoir ces clichés en tête quand je vais recevoir les personnes. Okay. Parce que voilà, j'ai appris que même si on essaye de pas les avoir, on les a forcément en tête. Et essayer de les mettre de côté. Non, franchement, super intéressant.
Recoucou, vous êtes toujours sur le gang des hystéries. On remercie très fort Lily pour ce super petit reportage et Luc aussi pour la technique qu'on ne remercie jamais assez. Mais sans lui, tout ça ne se passerait pas parce que pour lancer l'émission tout à l'heure, on a dû lui demander trois fois pour savoir comment marchait la table de mixage.
Donc, notre sauveur.
Merci Luc de Micro Rebelle. Donc, n'hésitez pas, parce qu'on n'est pas que la seule émission sur de Micro Rebelle. N'hésitez pas à aller sur le site de Micro Rebelle et écouter tous les autres reportages et autres émissions. Il y a vraiment des trucs super dessus.
Et on rappelle aussi que sur Micro Rebelle, on a les off, c'est-à-dire que sur oui. PFM, il n'y a qu'une heure d'émission, mais sur certaines émissions, on vous précise qu'il y a une petite suite.
Voilà.
Donc n'hésitez pas à aller écouter la suite, c'est des fois même plus intéressant que ce qu'on a pu raconter au début.
Désolé. Ok, bah maintenant on va arriver sur notre dernier sujet du jour. Tout à l'heure, en fait, Florian disait que le 1er décembre arrivait la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de faire un petit point sur le VIH et le Sida. Où est-ce qu'on en est exactement en 2018? On voudrait faire dans l'avenir une grande émission sur la santé sexuelle en général, mais on fera ça quand on sera plus, quand on aura, parce qu'on voudra bien, on a quelques petits invités, qu'on voudrait bien inviter, que du beau monde, donc ça sera pour une autre émission. Donc là, pour l'instant, on va rester surtout en surface, on va parler du VIH. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur la santé sexuelle, donc revenez pour les prochaines émissions.
Alors, ouais. Déjà, première chose, qu'est-ce que ça veut dire VIH?
virus de... Ah putain, tu prononces dire ça avec quelqu'un qui a du mal à prononcer les espèces, c'est très dur. Et j'ai un trou. virus d'immunodéficience humaine.
Humaine, voilà, exactement. C'est parce ça. Que, pour petite précision, ça existe chez d'autres espèces animales. Par exemple, chez les chats, il y a beaucoup d'animaux. On vous précise aussi, quand vous allez chercher un chat à la SPA, s'il est FIV plus ou pas, c'est tout simplement le virus qui s'est adapté chez les chats. Et ça existe aussi chez certains grands singes.
Ouais.
Donc là, le H pour humain, effectivement. Et donc SIDA,
ouais.
C'est le syndrome de l'immunodéficience acquise.
Voilà.
Donc voilà, tout ça pour dire que donc d'un côté on a le virus, celui qui va contaminer le corps, et de l'autre côté on a la maladie, c'est-à-dire les symptômes qui vont arriver une fois que le virus est bien installé et tout ça, et qui commence à faire son petit bordel dans le corps.
Super, merci. et ouais, et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger de tout ça en fait? Il y a plusieurs moyens de protection. Le plus connu, c'est le préservatif en fait, qu'il soit interne ou externe. En fait, la différence, vous avez peut-être déjà entendu parler de préservatifs masculins et féminins. Nous, on préfère dire interne ou externe parce que pense pas que l'endroit où on se met un préservatif ça soit forcément féminin ou masculin. Le préservatif le plus connu c'est l'externe, c'est en général, vous le voyez, il est dans sa petite pochette toute carrée. Donc ça c'est vraiment c'est l'outil le plus connu en fait, c'est celui qui se met sur un pénis en érection. L'interne c'est en général il est en nitrile alors que l'externe est en latex, et il est beaucoup plus grand, il ressemble à une énorme chaussette en fait, et il est fait pour être mis à l'intérieur du vagin et ou à l'intérieur d'un anus pour les pénétrations anales. Et donc l'avantage, vu qu'il est en nitrile, c'est que les personnes qui sont allergiques au latex n'auront pas ce problème-là, en fait. Et aussi, il peut se mettre bien avant une relation sexuelle, en fait. Donc c'est peut-être un avantage, un plus. Il y a des personnes qui utilisent que celui-là, il y en a qui utilisent les deux. C'est à vous de voir. Mais voilà, donc c'est vraiment un moyen de protection qui est utilisé depuis très longtemps, qui protège aussi des autres IST, qui peuvent se transmettre du coup par la pénétration du moment que c'est utilisé correctement, parce qu'on le rappellera toujours de bien le mettre dans le bon sens, de tenir le petit réservoir et de dérouler pour éviter qu'il y ait une bulle d'air, parce que la plupart des accidents au préservatif, la plupart des capotes qui craquent, c'est parce que il y a des bulles d'air qui rentrent à l'intérieur, créant donc une tension, et avec la friction, le préservatif va craquer.
Exactement. Et bien, comme tu disais qu'il y en a certains qui utilisent les deux, bien sûr, ne jamais utiliser les deux en même temps.
Ah oui, non.
Soit l'un, soit l'autre. Hein.
Très mauvais plan. tout comme utiliser deux préservatifs, même les mêmes, l'un sur l'autre, ça va rien faire. En fait, ça va même être plus dangereux. Déjà, ça va être très inconfortable. Et en plus, c'est être plus dangereux parce que ça va créer une friction entre les deux préservatifs qui va favoriser le craquage, en fait. Donc, toujours qu'un seul.
Et on rappelle aussi parce que. C'est certes un moyen de protection, le préservatif, mais c'est un moyen de contraception.
Bien sûr.
Et qui a uniquement les moyens de contraception dits physiques, comme le préservatif, qui empêche la transmission de tout ce qui est IST, donc infection sexuellement transmissible, c'est-à-dire la pilule ou tout ce qui est à base d'hormones et tout ça, ça ne va pas vous empêcher d'attraper une cochonnerie. Par contre, ça vous empêchera d'avoir des enfants, ça oui.
Voilà. Est-ce que ce sont les mêmes choses? On ne le dira, on ne se prononcera pas, on reste neutre. Mais donc voilà, ça c'est la plupart des outils utilisés. Mais quelque chose qui est de plus en plus répandu, surtout en France, maintenant on était le même, un des premiers pays du monde à le rembourser intégralement par la Sécurité sociale, c'est la PrEP. Donc là, je n'ai pas mes petites notes, donc je ne peux pas dire exactement pourquoi ça tient, PREP, parce que c'est des abréviations chimiques, et moi, je ne sais pas du tout ma spécialité. Mais en gros, la PrEP, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament préventif. Je ne sais pas si Florian, t'as envie de nous en dire un peu plus.
Alors, c'est un médicament préventif qui fait que s'il y a, par exemple, prise de risque. Donc, quand il y a prise de risque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de protection
physique.
Et donc en fait la particularité de la PrEP, et il y a une étude australienne qui est sortie il y a peu de temps qui a prouvé l'efficacité de la PrEP dans ce sens, c'est-à-dire que si par hasard votre partenaire avait le VIH et qui vous l'a transmis, la PrEP va empêcher l'infection, la contamination, c'est-à-dire que le virus ne va pas réussir à s'installer dans votre corps, il sera automatiquement éliminé.
Complètement. Et pas que cette étude australienne. Il faut savoir vraiment que la PrEP, c'est récent dans le sens où ça démocratise, mais ça fait beaucoup, beaucoup d'années qu'il y a énormément de tests. En France, il y avait l'étude Hypergay qui visait à tester ça sur des populations HSH, donc des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, qui est pour l'instant la population en France la plus touchée par le VIH. Et tous les groupes prenant la PrEP et l'utilisant correctement, c'est-à-dire ne l'oublions pas, parce qu'en fait c'est des petits cachets en fait, qui n'oubliaient pas de prendre une prise, sont protégés à 100% par les contaminations. C'est un peu un médicament qui peut paraître magique, il faut juste faire attention à bien le prendre, parce que il y a deux façons différentes de le prendre en fait. Il y a les prises continues, la prise continue c'est en gros un cachet à heure fixe tous les jours, et en discontinu. Et là, c'est en gros, il faut un peu plus calculer, en fait. C'est-à-dire qu'il faut prendre une prise, on appelle une prise de charge, qui est constituée de deux pilules qu'on va prendre au moins 2 heures avant le rapport. Et puis ensuite, une autre après 24 heures après le rapport, et une autre 48 heures après. Donc en gros, 4 pilules. Là, on vous dit beaucoup de chiffres et tout ça, donc ça paraît compliqué, mais en vrai, c'est très très simple, ça fait partie d'un processus, d'un protocole. La plupart les gens qui sont suivis par la PrEP, c'est pas juste aller à la pharmacie et on vous file un médicament en vous disant « c'est bon, voilà ». En fait, c'est pour avoir la PrEP, déjà, il faut rentrer dans les catégories de population à risque, et ça fait partie d'un suivi avec un ou une médecin.
Oui. Il faut aussi être en bonne santé, parce que étant donné que la molécule agit sur certaines parties du corps, par exemple, il faut ne pas avoir de problème au niveau du foie ou au niveau des reins.
Oui, complètement. Parce que comme pas mal de médicaments, la PrEP peut être agressive sur les reins. C'est pour ça que quand on est suivi dans un protocole PrEP, on va voir son médecin ou sa médecin tous les 3 mois. En fait, il y a un rendez-vous fixe. Et c'est l'occasion en fait de faire le point sur sa santé sexuelle, mais pas que. En fait, justement, il va avoir des tests urinaires pour tester les reins, pour voir si toute la personne est en bonne santé. C'est la bonne santé aussi en général. Donc, c'est assez pratique, parce que ça permet de faire un état des lieux de sa santé en général. Mais ça permet aussi, donc, du coup, de faire un diagnostic de toutes les IST, parce que la PrEP ne protège que du VIH, mais donc il y a plein d'autres IST. Il y a les hépatites, même si pour ça, il y a des vaccins qui existent. Il y a la gonorrhée, la chlamydia, la syphilis.
Papilloma.
Oui, voilà. Et justement, le fait de se voir tous les 3 mois, de faire ces tests, permet justement de... Quand je peux dire, d'empêcher ces IST de se propager, en fait. Mmh. Parce que c'est donc au long terme, en fait, la PrEP est un protocole anti-VIH et aussi anti-IST. Les pays, par exemple, ou les villes, surtout où la PrEP est utilisée depuis beaucoup plus longtemps que la France, je pense à San Francisco, par exemple, où là, ça commence à faire quelques bonnes années où c'est utilisé. On a vu d'abord, c'était étonnant, c'est que on a vu le nombre d'IST exploser, en fait. Du coup, tout le monde se disait, ah, mais forcément, vu que les gens ont la PrEP, ils vont plus se protéger, donc il y a plein d'autres IST. Et en fait, c'était un raccourci, c'est un raccourci mental de croire ça, parce que, en gros, tout ce que ça voulait dire, c'est que vu que les gens se faisaient dépister tous les 3 mois, il y avait plus de diagnostics, et non pas plus de contamination. Parce que ça n'a pas vraiment changé les pratiques et le nombre de contaminations. Tout ce que ça a fait, c'est que ça a forcé les gens à se faire beaucoup plus souvent dépister, à mieux se faire dépister aussi, parce qu'il y a des personnes qui vont se faire dépister rapidement dans certains centres où on va faire qu'une prise de sang pour le VIH, mais alors que pour se faire dépister pour toutes les IST, on le rappelle, c'est une prise de sang, un test urinaire, un test pharyngé, donc du coup dans la gorge, et un test anal, donc c'est pour les hommes en tout cas. Donc du coup c'est tout un processus, et c'est ça qui permet avec la PrEP de surveiller ce genre de choses.
Et on rappelle qu'en France, il y a les chercheurs supposent qu'il y a, enfin les médecins qui s'occupent de ça supposent qu'il y a presque 50 000 personnes qui sont atteintes par le VIH et qui n'ont pas encore été dépistées. Donc c'est quand même une énorme catégorie, voilà, de la population. Et moi j'ai déjà eu en allant voir un médecin suite à un rendez-vous de dépistage, qui m'a dit, ben là je vois, suite à, là je suis content d'être avec vous, j'ai des bonnes nouvelles à annoncer, mais là j'ai une personne que j'ai pas vue depuis 3 ans et c'est pas très bon à annoncer, donc vaut mieux y aller, entre guillemets, perdre une demi-journée, voire quelques heures auprès d'un médecin pour contrôler que tout va bien, que de s'amuser et de voir quelques temps plus tard que... On a appris une bêtise.
Ah ouais, non, mais ça, c'est, de toute façon, c'est l'un des meilleurs moyens. C'est, on le répète vraiment, pour lutter contre le VIH et la plupart des IST, c'est la prévention, c'est le dépistage. Parce que même une personne qui est séropositive, du coup, qui est infectée par le VIH, déjà, une personne qui a le VIH n'a pas le sida. Et il faut savoir ça, le sida n'est qu'une étape, c'est un symptôme du VIH, en fait. Et c'est à partir de là où ça peut vraiment se compliquer. Mais fort heureusement, surtout dans des pays du Nord comme nous, où on a accès aux soins, accès à une sécurité sociale, être séropositif n'est plus du tout en fait une annonce de mort comme ça a pu être l'être il y a pas encore si longtemps que ça, ou comme ça peut l'être encore dans d'autres pays du monde actuellement. En fait, être séropositif, là, c'est encore une fois le dépistage est vraiment très important. Il faut se faire dépister le plus vite possible, en fait. Parce qu'une personne qui est séropositive depuis peu va être mise sous antirétroviraux. Et donc, du coup, en fait, c'est un traitement qui va permettre à la personne de rester en stade VIH. C'est-à-dire que ça va empêcher le VIH de se transformer en sida. Et à partir de là, en fait, une personne qui reste au stade VIH va avoir le même espérance de vie que des personnes qui votent non contaminantes, en fait.
Et ce qui est important aussi, c'est que ces rétroviraux vont faire diminuer aussi le nombre de virus qu'il y a dans le corps de la personne, et la personne qui est séropositive est aussi dite indétectable, voilà. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances qu'elle puisse transmettre.
C'est même plus de ça, parce que justement, il y a eu les derniers chiffres de la dernière conférence mondiale contre le sida de cet été, la AIDS 2018, où justement, en fait, comme tu disais, les personnes qui suivent un traitement depuis plusieurs... En général, c'est au bout de quelques mois, c'est un minimum de 3 mois. Au bout d'un moment, le VIH va devenir tellement disparaître que la personne, on ne va même plus le voir. En fait, littéralement, comme tu dis, elle devient indétectable. Et en étant indétectable, en fait, elle ne peut plus transmettre le VIH. Une personne qui est indétectable ne peut plus le transmettre. Ça, c'est un fait. Et c'est quelque chose d'ailleurs que la communauté scientifique a eu beaucoup de, et les associations aussi ont eu beaucoup de temps à admettre, parce que le sida, c'est une pandémie qui est traumatique. On parle de millions et de millions de morts. Et donc, du coup, c'était très particulier d'apprendre un beau jour que, en fait, une personne qui était séropositive sous traitement pouvait coucher sans capote, sans rien, sans risquer de contaminer son partenaire. Et en fait, du coup, il y a eu deux études qui ont été faites ces dernières années, c'est Partner 1 et Partner 2, où des milliers et des milliers de couples sérodiscordants, donc sérodiscordants, ça veut dire qu'une personne, un couple, du coup, avec une personne séropositive, une personne séronégative, donc une personne qui a le VIH et l'autre non, dont une qui était sous traitement, donc, on a suivi ces couples pour voir si il y avait contamination, en fait. Quand la personne prenait correctement son traitement. Et après de plusieurs années d'observation, on est arrivé à un taux de contamination de 0%. Donc c'est une avancée qui est fantastique, en fait, et qui donne beaucoup beaucoup d'espoir pour toutes les personnes séropositives. Ça montre en fait que avoir le VIH et être sous antirétroviraux veut dire qu'on peut continuer à vivre notre vie. J'appuie bien sur le fait que ça ne guérit pas. On a toujours le VIH et on doit toujours prendre ses médicaments tous les jours. Parfois avec des effets secondaires, ça dépend vraiment des gens. Mais au moins, on peut ne plus le transmettre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, surtout pour les personnes qui peuvent avoir des rancards, qui vont se dire « Ah non, j'ai pas trop envie de rencontrer un mec qui est séropositif, j'ai vachement peur qu'il me contamine ». Bah en fait, non, là on arrive dans le domaine de la sérophobie, ouais. Et exclure des gens juste parce qu'ils sont séropositifs. Et littéralement, coucher avec une personne qui est séropositive et qui a un traitement est beaucoup, beaucoup moins risqué, j'utilise des guillemets, pour vous que coucher avec une personne qui ne connaît pas son statut.
Oui, parce qu'en plus du traitement, il y a un suivi qui est fait, et donc tout comme pour les personnes qui prennent la PrEP, il est dépisté régulièrement, parce que le VIH, je rappelle, ça atteint le système immunitaire une fois qu'il est déclenché, et donc le problème, c'est que même un rhume une petite maladie, quelle qu'elle soit, elle va en prendre des conséquences importantes sur la santé de la personne.
Quand c'est dans un stade avancé, ouais.
Quand c'est dans un stade avancé, effectivement. Et donc, si une personne, en plus du VIH, a une autre IST, ça complique sa santé. Donc, c'est pour ça que ces personnes-là sont suivies régulièrement aussi.
Oui, voilà, complètement. Et donc voilà, ça c'est quelque chose. Donc en fait, il y a eu énormément d'avancées ces dernières années. Et vu qu'on a un peu l'impression que le sida, c'est d'un coup, c'est un peu de mode, ou alors on va soit le dédramatiser au point où on se dit ouais, mais non, c'est passé, on peut le traiter, on peut le guérir maintenant, soit on va le dramatiser à fond. En fait, il n'y a pas du tout d'entre-deux. Et c'est là où il y a un travail vraiment associatif et militant à faire de ce côté-là, c'est toujours rappeler aux gens que oui, bah, le VIH est toujours là. Que tout le monde n'est pas égal à l'accès aux soins, qu'il y a plein de personnes en France, comme tu le disais, qui ignorent leur statut, quand même des dizaines de milliers de personnes, ce n'est pas rien. On a plein de nouvelles contaminations chaque année, et donc du coup, il y a vraiment un travail à faire sur, pour parler des gens de l'après, parler des gens des préservatifs, parler de tous les différents moyens de se protéger. Et en même temps, il faut aussi lutter contre l'isolement dans lequel les personnes séropositives peuvent se retrouver à cause de la sérophobie, en fait. Et donc du coup, dédramatiser aussi ce côté-là en disant « c'est bon, cette personne-là, elle est sous traitement, elle ne va pas te contaminer. » Et voilà, sortir de ce stigmate, en fait.
Et aussi, ce qui est important aussi, c'est d'apprendre, d'éduquer aussi les modes de transmission. Parce que moi, en tant que professeur des étés, combien de fois j'entends que le VIH se transmet par la salive, par exemple. Donc déjà, il faut savoir que c'est surtout lors d'un rapport qui est à risque, donc non protégé, ça va être surtout par rapport aux muqueuses. Voilà. Donc tout ce qui est muqueuse, c'est-à-dire au niveau de la bouche, au niveau de l'anus et au niveau du vagin, ce sont des muqueuses, c'est-à-dire la paroi interne donc de ces organes qui est plus fine et qui permet plus d'absorption, on va dire, donc il y a plus d'échanges qui peut être possible avec le sang. Donc par exemple, si il y a une éjaculation, pardon, le VIH se retrouve dans le sperme, et donc ce VIH va pouvoir passer à travers la muqueuse et donc aller plus facilement dans le sang et pouvoir contaminer tout le corps. Voilà. Donc ça passe dans la bouche, dans le vagin ou dans l'anus.
Voilà, bah, sur ça, de toute façon, il y a 5 fluides en fait, qui transmettent le VIH. Faut toujours se souvenir de ces 5 fluides et toujours se rappeler que la salive n'est pas dedans, parce que ça, c'est vraiment une idée reçue et qui reste depuis très très longtemps. Des gens qui ont peur de s'échanger une cigarette, un bédo, ou ont peur de manger dans la même assiette, a peur dans la toilette ensuite, c'est vraiment de la psychose. Du coup, ces fluides sont le sperme, on en parlait, le sang, les sécrétions vaginales, donc ce qu'on va appeler plus communément la mouille, par exemple. Et,
la cyprine.
Oui, voilà, la cyprine aussi. Moi, je suis encore plus commun. Et l'équivalent masculin, du coup, les liquides pré-éjaculatoires, en fait. Et le lait maternel aussi. Parce que ça, il faut rappeler aussi qu'une... Quand une mère est séropositive, elle ne va pas transmettre le VIH à son enfant pendant la gestation. C'est quelque chose qui est vraiment cool. Et par contre, la contamination va se faire à la naissance. C'est pour ça qu'en fait, en général, une personne qui est enceinte, c'est nécessaire qu'elle fasse le test pour qu'on puisse vérifier justement si elle est séropositive ou non, pour pouvoir assister à la naissance, pour empêcher que la contamination se fasse à l'enfant. Maintenant, c'est quelque chose auquel on a énormément de succès, en fait. Mais par contre, c'est très très important, du coup, de se rappeler que le virus peut se trouver dans le lait maternel. Donc voilà, c'est... Voilà, donc pas de salive, le lait maternel, les sécrétions vaginales, la mouille en général, masculine ou féminine, le sperme et le sang. Et se rappeler aussi que si... Il y a une autre façon aussi un moyen de protection, si jamais... vous avez un grand doute que vous avez une relation non protégée avec une personne qui ne prend pas la PrEP et vous non plus, et que vous pensez avoir été contaminé, allez le plus vite possible aux urgences pour demander un TPE, un traitement post-exposition. C'est un traitement qui peut fonctionner quand la contamination était très récente et qui va empêcher le VIH de se propager dans votre système, en fait.
En fait, c'est exactement la même chose que prennent les personnes qui sont séropositives, sauf qu'on fait exprès de le prendre assez tôt. Alors, c'est sûr que c'est un traitement qui est assez costaud, parce que vu que c'est le même que prennent les personnes séropositives, c'est quand même un traitement qui est un peu costaud, mais il y a de fortes chances, si vous suivez ce TPE, qu'après, vous ne soyez pas contaminé par le VIH.
Voilà, et de toute façon, si vous allez aux urgences, on parlait de ça, vous rencontrerez un médecin ou une médecin qui va faire un état des lieux pour voir s'il y a vraiment une prise de risque, si ça vaut la peine de vous mettre là-dedans. Donc voilà, c'est toujours un truc à avoir en tête. Je crois qu'on a fait vaguement le tour, je crois que tu avais quelque chose.
Une petite précision, ouais. C'est que au niveau des dépistages, bien sûr, vous pouvez demander à votre médecin traitant une ordonnance pour faire ça dans votre laboratoire. Oui, bien sûr. Et bien sûr, si vous ne souhaitez pas passer par votre médecin traitant, que vous voulez rester anonyme ou que vous avez des problèmes d'argent et donc que ça soit gratuit, vous pouvez toujours aller au CEGID, donc c'est le centre de dépistage, qui se situe principalement dans des centres hospitaliers. Et vous téléphonez, vous prenez rendez-vous et tout le checking est fait, il est vraiment complet, donc n'hésitez pas à contacter le plus proche de chez vous.
Oui, voilà. Et selon les endroits, il y en a que ça s'appelle des CEGID, parce qu'ils ont fait la transition, il y en a d'autres qui s'appellent des CDAG, donc Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit, d'autres qui s'appellent des CIDIST. Nous, on vous recommande le CDAG CIDIST de Lens, qui est habilité à donner la PrEP en plus, parce que la PrEP, on ne peut pas l'avoir non plus dans tous les endroits. Et on le recommande chaudement. En plus, c'est des personnes avec qui on aime beaucoup travailler au planning. C'est des personnes qui font un travail merveilleux en termes de santé sexuelle, avec une approche réellement inclusive. Donc, que vous soyez hétéro, non hétéro, plutôt queer, plutôt cisgenre, plutôt trans, elles sont formées sur ces questions-là et peuvent vous suivre. Donc, n'hésitez vraiment pas.
Je pense que c'est bon.
Ouais, je crois que c'est bon. Là, encore une fois, voilà, on a fait vraiment la surface, en fait. On avait un peu moins de 20 minutes pour parler du VIH parce que le 1er décembre approche, qu'on meurt toujours du sida, qu'il y a toujours beaucoup trop de contamination. Donc, on voulait faire un petit point avec vous pour vous parler des différentes façons de se protéger, de protéger vos partenaires. Mais on fera une émission bien plus complète sur ça ou avec ces rappels.
Ouais, parce qu'il n'y a pas que le VIH comme IST, malheureusement, il y en a d'autres qui sont quand même plus importantes quand elles se déclarent.
Complètement. Et il y en a plein, mais disons que celle-ci, voilà, c'est celle qui est la plus connue, c'est celle qui a fait le plus de morts. Et en plus, c'est celle qui va être d'actualité avec ce joli mois de décembre. On pense toujours à Noël et Sida. Et donc du coup, on va vous laisser. En fait, on va. Je crois que le morceau d'ensuite, ça va être. Big up de Grâce et Volupté Van. Vous pouvez continuer d'écouter, vous pourrez écouter cette émission sur le site de Micro Rebelle, en fait, dont vous verrez la jolie petite icône, le gang des hystéries. Ou alors écouter toutes nos émissions passées, on a fait plein d'autres émissions avec plus de gens parce que là aujourd'hui on était que deux. Mais à chaque fois on est même mis trop autour de la table, c'est un joyeux bordel et on parle pendant des heures, donc n'hésitez pas à venir écouter ça. Ok, du coup, on était très content de faire cette émission avec vous. On va vous laisser donc avec Big Up de Grâce et Volupté Van. Prenez soin de vous et restez protégés. Bisous.
Bisous, sortez couverts.